Chapitre 5. Le lendemain, Madame de Ferjol envoya chercher le médecin du bourg par Agathe, qui dit à sa maîtresse, avec sa familiarité cordiale et autorisée, « Ah, Madame, s'aperçoit donc que Mademoiselle est malade. Ah, voilà, c'est longtemps que cela me crève les yeux à moi. Je l'aurais dit à Madame, si Mademoiselle ne me l'avait pas toujours défendue, voulant point inquiéter sa maman. » Sur un malaise qui se passerait bien tout seul, disait-elle. Mais il a point passé, et je suis contente que le médecin vienne. Elle n'acheva pas sa pensée, car elle ne croyait point, avec les idées surnaturelles qu'elle avait, que le médecin pût grand-chose contre le mal de la sténie. Elle alla pourtant le chercher avec empressement, et il vint. Il interrogea Mademoiselle de Ferjol, mais il ne tira pas beaucoup de lumière de ses réponses. Elle dit qu'elle sentait en elle un brisement, une langueur invincible, accompagnée d'un mortel dégoût pour toute chose. « Même pour Dieu ?» lui lança sa mère avec une ironie pleine d'amertume, mot qu'elle ne put retenir tant elle lui en voulait de cette communion refusée la veille. L'asthénie, qui ne se plaignait jamais, reçut le coup de ce mot sans se plaindre. Mais elle sentit, comme une menace prophétique de l'avenir, que la pitié de sa mère, qu'elle avait toujours trouvée bien rigide, pourrait un jour devenir cruelle. Agathe avait élu raison dans ses pensées, mais si le médecin comprit quelque chose au mal de Mademoiselle de Ferjol, il n'en laissa rien soupçonner à sa mère. Il ne lui dit rien de net sur l'état de sa fille. Madame de Ferjol, qui n'était jamais malade, « J'ai en santé, disait-elle quelquefois, ce qui m'a manqué en bonheur. » Connaissait à peine ce médecin qu'elle avait consulté pour l'asthénie en bas âge et pour ses petits maux d'enfant. Il était depuis 10 ans médecin dans ce trou, comme disait la méprisante Agathe, ce qui du reste n'était pas une objection contre son habileté de médecin. De tous les hommes qui ont besoin d'un large théâtre pour dépouiller des talents et même du génie, le médecin est celui qui peut le mieux s'en passer. Ne trouve-t-il pas de la matière médicale partout? Le plus fort praticien peut-être du 19e siècle, Rocaché, vécut toute sa vie dans une obscure bourgade de l'Armagnac, noire, où il fit pendant plus de 50 ans des miracles de guérison. Le médecin de la bourgade du Forêt ne ressemblait pas, il est vrai, à celui de la bourgade des Landes. Ce n'était lui qu'un homme de bon sens et d'expérience, voilà tout, qui pratiquait surtout la médecine expectante et ne forçait pas la nature, laquelle, en vraie femme qu'elle est, veut quelquefois être forcée. Les symptômes qu'il étudia dans l'asthénie étaient-ils trop vagues pour dire ce qu'il pensait, s'il prévoyait quelque chose de grave? Toujours est-il que s'il eut de l'inquiétude, il la garda pour lui seul, aimant mieux attendre avant d'en donner à cette mère, dont il lisait dans ses yeux noirs l'âpre sentiment maternel. Il parla d'un de ces dérangements de santé si communs dans les jeunes personnes de l'âge de l'asthénie, quand leurs organes, ébranlés par la crise qui les fait femmes, n'ont pas encore repris leur équilibre, et il prescrivit pour leur établir une hygiène plus qu'une médication. Mais quand il fut parti, « Mais tout cela, dit résolument la vieille Agathe, n'est que de l'organ. Mitotéitaine, c'est pas toutes ces bêtises-là qui guériront mademoiselle. » Et de fait, aucun mieux ne se produisit dans le singulier mal qui semblait consumer l'asthénie. Ses joues se plombèrent, sa mélancolie s'épaissit, ses dégoûts augmentèrent. « Voulez-vous que je vous dise ce que je crois, madame ?» dit Agathe à madame de Ferjol, un jour qu'elles étaient seules. Le dîner finissait et l'asthénie, qui pendant tout le repas, qu'elle avait trouvé nauséabond, était resté le cœur sur les lèvres, venait de monter dans sa chambre pour se jeter un instant sur son lit. « Voilà un mois qu'il vient, ce médecin, et pour rien, » dit Agathe. « Il y a 3 jours qu'il était là encore, continua-t-elle avec violence. Eh bien, ce que je crois, madame, c'est que la pauvre demoiselle a plus besoin d'un prêtre qui l'exorcise que d'un médecin qui ne la guérit pas. Madame de Fergent le regarda la vieille Agathe comme on regarde une personne qui vient d'être atteinte d'un premier accès de folie. Oui, madame, dit la vieille dévouée, qui n'avait pas peur des yeux immenses avec lesquels madame de Fergent la regardait. Oui, madame, un prêtre qui défasse la diabolique besogne du Capucin. Les yeux de madame de Fergeol jetèrent une lueur sombre. Quoi, dit-elle à Agathe, vous souhaiteriez croire? Oui, madame, dit intrépidement Agathe, je crois que le démon a passé par ici et qu'il y a laissé ce qu'il laisse partout où il passe. Quand il ne peut pas donner les âmes, il s'en venge sur les corps. Madame de Fergeol ne répondit pas. Elle mit sa tête dans ses mains et resta appuyée sur les coudes de devant la table dont Agathe avait ôté la nappe. Elle réfléchissait sur ce que la vieille servante venait de lui dire avec une profondeur de conviction qui entre comme un dard dans son âme à elle, tout aussi religieuse qu'Agathe et même beaucoup plus. Laisse-moi un moment, Agathe, fit-elle en relevant une tête effarée et la replongeant dans ses mains. Et Agathe s'en alla reculons pour juger plus longtemps de l'état d'âme dans lequel elle avait mis cette femme, frappé par elle de la foudre avec un seul mot. Oh, sainte Agathe, murmura-t-elle en s'en allant, puisqu'elle dit voix goutte, il fallait bien enfin que cela fût dit. Elle n'était pas superstitieuse, madame de Fergeol, pour parler comme le monde, qui n'entend rien aux choses surnaturelles. Et elle n'était pas non plus mystique au sens chrétien, mais profondément religieuse. Ce que venait de lui dire Agathe devait vivement l'impressionner. Ce n'est point elle qui aurait nié l'intervention physique et l'influence visible de celui-là que les saints livres appellent le mauvais esprit. Elle y croyait. Et quoique sa raison fût très ferme, elle y croyait avec tranquillité et doctrinalement, dans la mesure où l'Église, qui est la mère de toute prudence et l'ennemie de toute légèreté, autorise d'y croire. L'idée d'Agathe la saisit donc, mais avec moins de violence qu'elle n'eût saisi une imagination plus contemplative et plus exaltée que la sienne. Seulement, cette idée eut pour elle un éclair qu'elle n'avait pas eu pour Agathe. La femme qui avait aimé, l'être qui depuis 15 ans cherchait à se rasseoir et à s'éteindre, mais qui brûlait et fumait encore d'une passion inextinguible pour un homme, lui révélait tout bas de ces choses que la vieille candeur d'Agathe, qui avait toujours vécu le célibat du cœur et le mutisme des sens, ne pouvait pas lui révéler. Madame de Fergeol croyait, autant que la simple Agathe, que le démon avait à son service des incarnations terribles. Mais elle savait par sa propre expérience ce qu'Agathe ne savait pas. C'est que l'amour est de toute la plus redoutable, tel l'éclair qui la traverse tout à coup. Et si l'asthénie aimait, se dit-elle, si c'était l'amour qui fut son mal? Et elle demeura la tête dans ses mains, effondrée. Mais ses yeux intérieurs, ces yeux que nous avons pour voir dans la nuit de nos âmes, était fixée sur cette pensée soudaine. Aimerait-elle? Or, comme dans cette bourgade chétive, il n'y avait que de petits bourgeois, sans société élevée, sans jeunes gens élégants, et où elle et sa fille passaient leurs jours au fond de leur hôtel désert, comme dans une thébaïde, voilà que se leva dans la nuit de son âme l'image de cet incompréhensible capucin qui avaient passé dans leur vie et disparu comme une vision, et d'autant plus troublante pour des imaginations de femmes qui n'avaient pu rien y comprendre et qui n'y avaient rien compris. Et l'horreur, l'espèce d'horreur que l'asthénie avait toujours montrée pour cet effrayant sphinx en froc, qui pendant 40 jours avait vécu impénétrable à côté d'elle, n'était pas une raison pour qu'elle ne l'aimât pas follement. C'était une raison, au contraire, pour qu'elle l'aimât avec frénésie. Les femmes savent cela. La vie des passions le leur apprend, quand leur instinct de femme ne le devine pas. Que d'amour commence par la crainte ou la haine. Et l'horreur, c'est la combinaison de la crainte et de la haine, élevée à leur plus haute puissance dans des âmes timides, révoltées. Vous lui faites l'effet d'une araignée, disait un jour une mère à un homme qui aimait sa fille. Et 2 mois après, cette dure et humiliante parole, la pauvre mère ne se doutait pas de la fuite de bonheur coupable et caché avec laquelle sa fille se roulait dans les pattes velues de l'araignée et lui donnait à sucer jusqu'à la dernière goutte vierge du sang de son cœur. L'asthénie avait tremblé devant le froid et mystérieux capucin. Mais si une femme n'a pas tremblé devant un homme, jamais elle ne l'aimera. L'altière madame de Ferjol avait aussi peut-être tremblé devant l'irrésistible officier blanc qu'il avait enlevé comme Boré enleva Ortietti. Pour avoir peur de ce qui menaçait sa fille, elle n'avait qu'à repasser ses jours. Si l'asthénie sait ce qu'elle a, se dit-elle, elle le tait et se cache. Le mal est profond. Elle aussi se souvenait quand elle avait aimé de s'être cachée. L'amour, cette pudeur farouche, devient si facilement un mensonge et le plus voluptueusement infâme des mensonges. Avec quel horrible bonheur on se colle ce masque d'une menterie sur la figure brûlante qui va le dévorer et qui ne laissera plus voir, quand il tombera en cendres, qu'une figure dévorée que rien jamais ne cachera plus. Et lorsque madame de Ferjol releva la tête, elle était calme et résolue de savoir ce qu'avait sa fille. Elle ne pensa plus au médecin. « C'est à moi, se dit-elle, de regarder et de voir. » Elle s'accusa une fois de plus du péché de toute sa vie, qui avait toujours été d'être plus épouse que mère. Dieu continuait de l'en punir et faisait bien. Elle l'avait mérité. Quand l'asthénie redescendit toute traînante et qu'elle se plaça dans l'embrasure de la fenêtre où elle travaillait, elle aurait peut-être été effrayée des yeux de madame de Ferjol s'il les avait regardés, mais elle ne les regarda pas. Elle ne cherchait point, elle n'y voyait jamais de tendresse, cet aimant de la tendresse qui mérite si bien son nom, et elle s'épargnait de n'y voir que des sentiments sans douceur. « Comment te trouves-tu ? » dit madame de Ferjol à l'asthénie, après un instant de silence, et en interrompant de piquer son aiguille dans le linge qu'elle marquait. « Mieux, » répondit l'asthénie, qui garda son front penché et qui continua de piquer la sienne dans son feston. Mais des yeux de ce front penché tombèrent perpendiculairement et s'enroulaient sur le visage deux larmes pesantes qui mouillèrent les mains et le travail de la jeune fille. Madame de Ferjol, l'aiguille levée, les regarda tomber, elle en vit tomber 2 autres, plus larges et plus lourdes. « Alors pourquoi pleures-tu ? Car tu pleures ! » demanda la mère d'une voix qui était comme un reproche ou une accusation de pleurer. L'asthénie, troublée, essuya ses yeux du dos de la main. Elle était plus pâle que la cendre de ses cheveux. « N'en sais rien, maman, » fit-elle. « C'est physique, je crois. »« Mais je crois aussi que c'est physique, » dit madame de Ferjol en appuyant sur les mots. « Pourquoi pleurais-tu ? Pourquoi aurais-tu du chagrin ? Pourquoi serais-tu malheureuse ?» Elle s'arrêta. Ses yeux noirs brûlants fixaient les beaux yeux clairs de sa fille, encore humides de larmes, et que le feu des yeux sombres qui les regardaient sembla sécher en les fixant. L'asthénie résorba ses pleurs, et les 2 aiguilles reprirent leur mouvement dans le silence qui recommença. Scène bien courte, mais menaçante. Elle venait de se pencher sur le bord de cet abîme qui les séparait. Le manque de confiance, elle ne s'endurcit pas davantage ce jour-là. Cruel silence qui revenait toujours. Il s'immobilisait entre elles, ce silence. Or, qu'y a-t-il de plus triste et même de plus sinistre qu'une vie intime dans laquelle on ne se parle plus, Malgré les résolutions de madame de Ferjol, la peur de voir la tenait, et quelques jours muets passèrent encore. Mais enfin, une nuit qu'elle ne dormait pas et qu'elle pensait à ce mutisme qui les courbait l'une en face de l'autre, sous l'oppression d'une inquiétude qui, des deux côtés, était de l'effroi, madame de Ferjol eut honte de sa faiblesse. Mais qu'elle soit lâche, oui, dit-elle, mais moi, non! Et elle se leva brusquement du lit où elle était couchée, et elle prit sur la table la lampe qu'elle n'éteignait jamais, pour voir, quand elle ne dormait pas, le crucifix pendu à son alcôve, et prier avec plus de ferveur en le regardant. Seulement, au lieu de le contempler et de le prier cette nuit-là, elle l'arracha violemment du mur de l'alcôve, et l'emporta comme une ressource désespérée contre le malheur qu'elle allait chercher, car elle allait en trouver un. Il fallait qu'elle en finît tout de suite avec l'insupportable anxiété qui la dévorait. Elle entra chez sa fille, la lampe d'une main, le crucifix de l'autre, en ses blancs vêtements de nuit, spectrale, effrayante. Heureusement, il n'y avait là personne pour la voir et qu'elle put épouvanter. C'était elle qui était l'épouvante. Qu'allait-elle faire? L'asthénie dormait alors sans souffle et sans rêve, de ce sommeil inanimé qui ressemble à la mort et qui prend au soir les êtres qui ont beaucoup souffert pendant le jour. Madame de Ferjol leva la lampe au-dessus du visage de sa fille et fit tomber la lumière frissonnante du frisson de sa main. Puis, l'ayant abaissée, elle la promena autour du visage de l'enfant endormi, dont elle voulait pénétrer le mal secret dans la naïveté du sommeil. « Oh » fit-elle avec une indicible horreur, « je ne me suis pas trompée. J'avais bien vu. Elle a le masque. » Mot tragique, qui exprimait pour elle une chose terrible, et que l'asthénie, la virginale l'asthénie, n'aurait pas compris si elle l'avait entendu. Et s'acharnant à le regarder, après avoir déposé sur la table de nuit la lampe qu'elle tenait, « Mais oui, elle l'a !» dit-elle. Et dans un mouvement de fureur subite, elle leva tout à coup le crucifix, comme on lève un marteau, sur le visage de sa fille, pour écraser ce masque dont elle parlait. Mais ce ne fut qu'un éclair. Le lourd crucifix ne tomba point sur le visage tranquille de la jeune fille endormie. Mais chose non moins horrible, c'est contre son visage à elle-même que cette femme exaspérée le retourna et qu'elle l'abattit. Elle s'en frappa violemment avec la frénésie d'une pénitence qu'elle voulait s'infliger dans un fanatisme féroce. Le sang jaillit sous la force du coup, et le bruit du coup réveilla l'asthénie, qui poussa un cri en voyant cette lumière soudaine, ce visage, ce sang qui coulait, et cette mère qui se frappait avec cette croix. « Ah, tu cries maintenant !» fit madame de Ferjol avec un affreux éclat d'ironie. « Tu n'as pas crié quand il fallait crier, tu n'as pas crié quand... » Mais elle s'arrêta hérissée, ayant peur de ce qu'elle allait dire, se cabrant devant ce qu'elle pensait. « Oh, dissimulé !» reprit-elle. « Fille hypocrite, tu as bien su tout taire, tout cacher, tout engloutir. Tu n'as pas crié, mais ton crime à présent crie sur ta face, et tout le monde va l'entendre crier comme moi. Tu ne savais pas qu'il y avait un masque qui ne trompait point, qui dit tout. Un masque accusateur, et tu l'as ? L'asthénie, surprise, épouvantée, ne comprenait rien aux paroles de sa mère. Elle serait peut-être devenue folle à cette horrible vision qui la réveillait en sursaut, si l'évanouissement ne lui préservait de la folie. Mais sans pitié pour cet évanouissement dont elle était cause, l'implacable madame de Ferjol laissa sa fille évanouie sur son chevet, et tombant à genoux et les deux mains tenant à poignée le crucifix dont elle s'était frappée. « Oh mon Dieu, pardonnez-moi » s'écria-t-elle en baisant les pieds du crucifix et en se déchirant les lèvres à ses clous. Pardonnez-moi son crime que je partage, car j'ai pas assez veillé sur elle. Je me suis endormi comme vos disciples ingrats dans le jardin des oliviers. Et le traître est venu quand je dormais. Ô mon Dieu, recevez mon sang en expiation de mon crime et du sien. Et elle redoublait ses coups contre sa poitrine et son front, et le sang ruisselait. Que votre croix soit l'instrument de mon sublime, Seigneur Dieu terrible. Et elle s'affaissa et s'abîma sur la terre, perdue, anéantie dans l'idée de son péché et de sa damnation éternelle, devant ce Christ rigide au bras droit et plus raidi vers Dieu, et sa justice qui est tordue avec amour sur la croix pour embrasser le monde sauvé. Image de ses bras à elle, qui laissait là sa fille à moitié morte, pour ne se tendre que vers le ciel. Chapitre 6. Quand l'asthénie revint à elle, sa mère accablée gisait dans la chambre, couchée par terre, la face collée au crucifix. Mais le mouvement que fit la jeune fille en reprenant connaissance et la plainte qu'elle jeta tirèrent de son accablement Madame de Farjolles, qui se leva et se dressant de toute sa hauteur devant sa fille avec son front ensanglanté. « Tu vas tout me dire, malheureuse, » fit-elle impérieusement. « Je veux tout savoir. Je veux savoir à qui tu t'es donnée dans cette solitude où nous vivons comme deux recluses et où il n'y a pas un homme fait pour toi. » L'asthénie poussa un cri encore, mais sans force pour répondre. Elle regarda sa mère avec la stupidité hagarde de l'étonnement. « Oh !» dit Madame de Farjolles, « plus de silence, plus de mensonges, plus de comédie. Ne fais pas l'étonner, ne fais pas la stupide !» ajouta la dure mère, qui n'était plus une mère, mais un juge, et un juge prêt à devenir un bourreau. « Mais ma mère !» s'écria la pauvre enfant, insultée dans son innocence et dans toutes ses pudeurs, et qui, révoltée de tant de cruauté et d'injustice aveugle, éclata en sanglots d'angoisse et de colère. « Mais que voulez-vous que je vous dise? Mais qu'avez-vous contre moi? Je ne sais rien, je ne comprends rien à ce que vous dites, sinon que c'est affreux, incompréhensible et affreux. Vous me faites mourir. Vous me rendez folle et vous semblez l'être autant que moi, ma pauvre mère, avec vos horribles paroles et votre front qui saigne. « Laisse-le saigner !» interrompit Madame de Farjolles, qui l'essuya d'un revers violent de la main. « S'il saigne, c'est pour toi, misérable fille. Mais ne dis point que tu ne comprends pas, oh, tu mens. Tu sais bien ce que tu as, peut-être. Les femmes savent tout cela quand cela est. Rien qu'en se regardant, elles le savent. Oh, je m'étonne plus que tu n'aies pas voulu aller à confesse l'autre soir. « Oh, ma mère !» dit l'asthénie exaspérée, et qui pour le coup comprit l'infâme accusation de sa mère. « Vous savez bien, ce que vous dites est impossible. Je suis malade, je souffre, mais mon mal ne peut pas être la chose horrible que vous pensez. Je ne connais que vous et Agathe, je ne vous quitte jamais. Oh, tu vas seule promener à la montagne, » dit Madame de Farjolles avec une atroce profondeur. « Oh !» fit la jeune fille, dégradée par un tel soupçon. « Vous me tuez, ma mère. Ange du ciel, prenez pitié de moi. Vous savez, vous, ce que je suis. » « N'invoque pas les anges, fille souillée. Tu les as fait fuir. Ils ne t'entendent plus, » dit Madame de Farjolles, incrédule, obstinément, aveuglément incrédule, à cette innocence qui s'attestait avec une candeur si désespérée. Et reprenant avec plus de fureur que jamais, « N'ajoute pas le sacrilège au mensonge, » fit-elle, et brutalement elle ajouta le mot affreux dans sa trivialité. « Mais tu es grosse, tu es perdue, tu es déshonorée. Dis-le, ne le dis pas, qu'importe. L'enfant viendra, malgré tout, tes mensonges et te donnera un démenti. Tu es déshonorée, tu es perdue. » Ben, je veux savoir avec qui tu t'es perdu, avec qui tu t'es déshonoré. Réponds-moi tout de suite, avec qui? Et avec qui? Avec qui? Répétait-elle en prenant l'épaule de sa fille et en la secouant avec tant de rage qu'elle la rejeta sur l'oreiller et que la faible enfant y retomba plus blanche que l'oreiller lui-même. C'était, en si peu d'instants, le second évanouissement de l'asthénie. Mais la cruelle Madame Ferfergeol n'en eut pas plus de pitié que du premier. Maintenant qu'elle avait demandé à pardon à Dieu pour le crime de sa fille et pour le sien à elle, qu'il n'avait pas surveillé avec assez de vigilance, elle aurait foulé aux pieds l'asthénie dans sa colère maternelle. Assise sur les pieds du lit de cet enfant dont elle venait par deux fois de faire un cadavre, elle la laissa reprendre ses sens comme elle put. Et ce fut long. L'asthénie mit du temps à revenir à elle. L'orgueil que la religion n'avait pas dompté à Madame de Ferjol se soulevait dans le cœur de cette femme de race, naturellement fière, à la pensée, à l'insupportable pensée, qu'un homme, un inconnu de bas étage peut-être, eût pu, sans qu'elle s'en doutât, lui déshonorer clandestinement sa fille. Et le nom de cet homme, elle le voulait. Quand l'asthénie rouvrit les yeux, elle vit sa mère penchée sur sa bouche, comme si elle eût voulu y chercher ou en arracher ce nom fatal. « Mais son nom !» lui dit-elle avec une expression dévorante. « Ah, fille hypocrite, je t'arracherai ce nom maudit quand il faudra aller le chercher jusqu'au fond de tes entrailles avec ton enfant. » Mais l'asthénie, écrasée par toutes les abominations de cette nuit, au lieu de répondre à sa mère, la regardait avec deux yeux grands et vides qui semblaient morts. Et ils sont restés morts, ces yeux si beaux, couleur des saules. Et depuis, on ne les revit jamais plus briller, même dans les larmes dont ils ont versé les torrents. Madame de Ferjol ne dira rien de sa fille, ni cette nuit, ni plus tard. Et ce fut de cette nuit funeste qu'elles entrèrent toutes deux, la mère et la fille, dans cette vie infernale dont elles ont vécu les infortunées, et à laquelle il n'y a rien de comparable dans les situations tragiques et pathétiques des plus sombres histoires. Ce fut vraiment une histoire sans nom, un drame étouffant et étouffé entre ces deux femmes du même sang, qui s'aimaient pourtant, qui ne s'étaient jamais quittées, qui avaient toujours vécu dans le même espace, mais dont l'une n'avait jamais été mère, ni l'autre fille, par la confiance et par l'abandon. Ah, elle payait cher maintenant la réserve et la concentration réciproques dans lesquelles elles avaient vécu. Et durent-elles s'en repentir? Ce fut un drame profond, d'âme à âme, prolongé, mystérieux, et dont il fallut épaissir le mystère, même aux yeux d'Agathe, qu'il ne pouvait pas connaître cette ignominie d'une grossesse que Madame de Ferjol, bien plus que l'asthénie, aurait voulu engloutir sous terre. Car l'asthénie, à ce moment-là, ne croyait pas à sa grossesse. Dans la nouveauté de ses sensations, elle croyait à une maladie inconnue, aux symptômes trompeurs et à une erreur monstrueuse de sa mère. Elle se révoltait contre cette erreur. Elle se débattait douloureusement sous l'insulte de sa mère. Elle ne courbait pas la tête sous le déshonorant soufflet de ses reproches. Elle avait l'entêtement sublime de l'innocence. Et parce qu'elle ne ressemblait pas à cette mère passionnée, despotique et fougueuse, qui aurait rugi comme une lionne si elle avait été à la place de l'asthénie. Comme vous vous repentirez un jour de m'avoir fait tant souffrir, ma mère, lui disait-elle avec la douceur d'un agneau qui se laisse égorger. Mais le jour dont elle parlait ne vint jamais. Et cependant, beaucoup de jours passèrent entre cette mère sans miséricorde, qui ne pardonnait pas, qui ne parlait jamais de pardon, et cette fille qui mettait son bonheur à ne pas être pardonnée. Les jours passèrent, longs, farouches, ulcérés et noirs. Seulement, il en fut un plus désespéré que les autres, et auquel l'asthénie ne s'attendait pas. Et ce fut celui où le tressaillement intérieur, que les mères heureuses appellent joyeusement le premier coup de talon de l'enfant qui annonce sa vie et peut-être aussi le mal qu'un jour il fera à sa mère, lui apprit à la malheureuse que c'était elle et non sa mère qui s'était trompée. Elles étaient alors, comme toujours, front contre front, dans l'embrasure de leurs fenêtres, occupant leurs mains fiévreuses en travaillant, dévorées par la même peine muette. Un jour triste, quoique clair et aigu, filtrant comme du vent par un trou de ce trou de là-haut, formé par ces montagnes, aux cimes rapprochées, tombait dans cette salle sombre, sur leur nuque comme une guillotine de lumière. Tout à coup, l'asthénie mit une de ses mains sur son flanc en poussant un cri involontaire. Et au cri, et encore plus à l'inexprimable désolation qui envahit son visage déjà si profondément bouleversé, sa mère, qui semblait lire à travers elle, devina tout. « Tu l'as sorti, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Il a remué. » « Tu en es sûr maintenant. Tu ne diras plus, obstiné. Tu diras plus non, toujours ton stupide non, il est là. » Et elle porta la main où l'asthénie avait mis la sienne. « Mais qui l'a mis là? Qui l'a mis là ? » fit-elle ardemment. Elle revenait à la question éternelle, à la question acharnée avec laquelle elle poignardait une fois de plus la pauvre fille. Atteinte comme d'un éclat de foudre par cette soudaine révélation de ses entrailles qui donnait raison à sa mère. Les bras rompus, les jarrets coupés par la certitude de son malheur, l'asthénie répondit avec égarement à la question de sa mère. « Elle ne savait pas !» Ce mot insensé qui remet toutes les colères maternelles. Madame de Fergeol avait toujours cru que c'était la honte qui murait la bouche de sa fille. Mais la honte, bonté, était bue maintenant. La grossesse s'attestait par la vie même de l'enfant qui, dans ce ventre, venait de bondir sous sa main. « Il y a donc, fit-elle réfléchie, plus honteux que la honte de ta grossesse. C'est la honte de l'homme à qui tu t'es donné, puisque tu te tais. » Et l'idée qui lui était passée par la tête un jour du capucin, de l'étrange capucin, lui revint tout à coup, non pas comme à Agathe, la superstitieuse Agathe qui croyait au sort, mais comme à une femme qui ne croyait qu'elle qu'au sortilège de l'amour, et qui en avait été aussi la victime. Pour elle, ce n'était pas une chose impossible qu'un amour caché sous une haine ou une antipathie menteuse, et dont la révélation éclatait dans le foudroiement d'une grossesse. Mais elle repoussait cette idée d'un crime qui, pour elle, devait être le plus grand de tous, puisqu'un prêtre l'aurait commis. Elle la repoussait encore plus par respect pour le caractère de l'homme de Dieu que par foi en l'innocence de sa fille. Elle savait, par son expérience personnelle, la fragilité de toute innocence. Seulement, curieuse, opiniâtrement et involontairement curieuse, quoique épouvantée, n'osant dire tout haut sa pensée qu'il épouvantait tout bas et qu'il la traversait parfois avec le froid d'un glaive, elle recommençait de hacher et de massacrer de la question éternellement acharnée cette fille au désespoir, à moitié morte de cette grossesse incompréhensible, et qui, abêtie, finit bientôt par ne plus répondre à rien que par du silence et des pleurs. Mais ni les intarissables pleurs, ni le mutisme de bête assommée dans lequel tomba et resta l'asthénie, sous les coups infatigables des questions de sa mère, ne lacèrent et ne désarmèrent cette âme brûlante de Madame de Fergeol. Toujours, dès qu'elles étaient seules, le supplice de ces questions recommençait. Et à présent, elles étaient seules presque toujours. Le tête-à-tête de toute la vie de ces deux femmes, dans cette immense maison vide, au bas de ces montagnes qui, de leur rapprochement, semblaient les pousser l'une sur l'autre, et les étreindre dans une plus stricte intimité, devint plus absolu qu'il ne l'avait jamais été. Agathe, cette ancienne domestique éprouvée, qui s'était arrachée de son pays pour suivre Madame de Ferjolles dans la coupable fuite de son enlèvement, sans se soucier des mépris qui s'attacheraient peut-être à elle là-bas, dans le pays, comme à sa maîtresse, Agathe avait souvent interrompu cet effroyable tête-à-tête. Quand elle avait fait le ménage de cette grande maison, elle avait coutume de venir coudre ou tricoter dans cette salle où ces dames travaillaient dans cette monotone routine de tous les jours qui était pour elle l'existence, l'immobile existence. Mais depuis que Madame de Ferjolles savait le secret du mal de l'asthénie, elle éloignait, sous un prétexte ou sous un autre, Agathe de sa fille. Elle craignait les yeux affilés de cette vieille dévouée qui adorait l'asthénie et les pleurs que la pauvre fille ne pouvait retenir et qui coulaient silencieusement de longues heures sur ses mains tout en travaillant. « Pour honte et pour tout, lui disait-elle quand la vieille Agathe n'était plus là, retenez vos pleurs devant Agathe. » À présent, elle ne tutoyait plus l'asthénie. « Vous avez bien la force de vous taire, vous aurez bien celle de ne pas pleurer. » Avec tous vos airs délicats, vous êtes une fille forte. Si vous êtes née faible, le vice vous a donné sa force. Oh, je ne suis que votre mère, à moitié coupable de votre crime, puisque je n'ai pas pu et su vous empêcher de le commettre. Mais Agathe est une honnête servante, et si elle pouvait seulement se douter de ce que je sais, elle vous mépriserait. Et elle insistait beaucoup sur le mépris d'Agathe, sur ce mépris d'une servante dont elle se servait pour humilier davantage l'asthénie et pour lui faire dire, sous la pression de ce mépris, le nom qu'elle ne disait pas. Madame de Ferjolles s'entendait au mot poignant. Elle aurait voulu trouver plus bas que le mépris d'une servante pour le jeter au visage et à l'âme de sa fille. Mais Agathe aurait-elle su la honteuse vérité qu'on lui cachait, qu'elle n'aurait jamais eu le cœur de mépriser l'asthénie. Elle aurait eu pour elle que de la pitié. Ce qui est du mépris pour les âmes altières devient de la pitié dans les âmes tendres. Et Agathe était une âme tendre que les années n'avaient pas durcie. L'asthénie le savait bien. Agathe n'est pas comme ma mère, pensait-elle. Elle ne me mépriserait pas. Elle ne m'accablerait pas. Elle aurait pour moi de la pitié. Et que de fois, cette fille infortunée avait, dans le malheur qui était tombé sur sa vie, été tentée de se jeter dans les bras de celle qu'elle avait appelée si longtemps sa bonne, quand elle était enfant et qu'elle avait des chagrins d'enfant. Mais sa mère, l'idée de sa mère, la retenait. L'ascendant de Madame de Ferjolles sur sa fille avait toujours été irrésistible, et cet ascendant était devenu terrifiant. Elle la médusait avec ses regards toujours fixés sur elle, quand Agathe était là. Et Agathe non plus n'osait dire une seule de ses pensées, quand elle regardait en tricotant, par-dessus ses lunettes, ces deux femmes travaillant l'une devant l'autre dans une désolation silencieuse. Ses pensées n'avaient pas changé, mais elle les gardait en elle depuis qu'elles avaient été accueillies par des haussements d'épaules de Madame de Ferjolles. Celle-ci, pour expliquer la pâleur, les défaillances et les larmes qu'elle disait nerveuses de sa fille, avait inventé une maladie à laquelle le médecin de cette ignorante bourgade ne comprenait rien et pour laquelle elle faisait soi-disant venir, par correspondance, des consultations de Paris. Il était plus facile, en effet, de soustraire l'asthénie à l'observation d'un médecin qui aurait tout vu au premier coup d'œil que de l'éloigner de la superstitieuse Agathe. D'ailleurs, était-il possible de lui cacher éternellement l'état de l'asthénie? Est-ce que cet état, effrayant déjà, ne déconcerterait pas les ruses de Madame de Ferjolles et ne devrait pas devenir d'une telle évidence se marquer de symptômes tellement accusateurs que même cette vieille innocente d'Agathe, dont la pureté fruit de la myopie, ne finirait pas par voir un jour la vérité. Nécessité inévitable. Madame de Ferjol y pensait bien. Elle sentait bien qu'il faudrait un jour ou dire tout à Agathe ou supprimer Agathe. Et supprimer Agathe, qui ne l'avait jamais quittée, dont elle connaissait l'affection et le dévouement, la renvoyer dans son pays, et ne pas reprendre de domestique par la raison précédente, mais qui faisait congédier Agathe, et vivre seule avec sa fille, au conspect de toute cette bourgade, respectueuse mais curieuse et malveillante, dans cette maison sans servante, au fond de ce gouffre de montagne, comme deux âmes dans un abîme de l'enfer. Et elle voyait cela dans l'effroi de la perspective. Incessamment, elle voyait en elle l'effrayant problème. Dans quelques mois, comment ferons-nous? Mais son orgueil maternel, qui s'ajoutait à son autre orgueil, l'arrêtait, suspendait sa résolution et l'empêchait de prendre un parti qu'il fallait prendre cependant. Cette nécessité devant laquelle se révoltait l'âme violente de Madame de Ferjol était comme un point de feu inextinguible et fixe qui s'élargissait dans sa pensée et dans les ténèbres de l'inévitable avenir qui chaque jour s'approchait, qui chaque jour faisait un pas de plus. Quand elle ne disait rien à sa fille, à laquelle elle ne parlait plus que pour lui mettre sur la gorge la question qui restait sans réponse, que pour se cogner contre le beau front, devenu obtus de l'asthénie, elle résistait aussi en son âme à cet aveu, impossible pour une Ferjol, d'une faute qu'ils honoraient ce nom dont elle était si fière. Et elle se répétait intérieurement, « Mais comment ferons-nous ?» Elle y pensait le jour, Madame de Ferjol, la nuit, à toute heure, même quand elle faisait ses prières. Elle y pensait à l'église, devant le tabernacle, devant la table de communion abandonnée. Car la janséniste qu'elle était ne communiait plus, ne se croyait plus digne de communier depuis le crime de sa fille. Lorsque, dans l'église, on pouvait la croire absorbée dans quelques prières et qu'il s'étonnait agenouillé, les coudes sur le prie-dieu de son banc, prenant de ses mains dégantées, à poignée sur ses tempes, ses forts cheveux noirs dans lesquels les blancs apparaissaient par vagues, comme ils apparaissent lorsque nous souffrons, elle était la proie du problème et de l'incertitude qui, pour l'heure, rongeait et consumait sa vie. L'inquiétude en elle allait jusqu'au vertige, et cette anxiété, mêlée à l'inconsolable chagrin que lui causait la chute de sa fille, lui donnait contre elle une humeur et un ressentiment farouche qui touchait à la férocité. Mais, hélas, la plus victime des deux était encore l'asthénie. Certes, Madame de Ferjol était bien malheureuse. Elle souffrait dans sa maternité, dans sa fierté de mère et de femme, dans sa conscience religieuse et même dans cette force qu'on paye quelquefois atrocement cher. Car les êtres physiologiquement forts n'ont ni le soulagement ni l'apaisement des larmes, et ils étouffent de sanglots qu'ils ne peuvent pas sortir. Mais enfin, elle était la mère, elle était le reproche, elle était l'insulte. Et l'asthénie n'était que la fille, l'objet de l'éternel reproche, l'insulté qui devait boire à pleine gorgée l'insulte de sa mère, de sa mère qui maintenant avait cruellement raison contre elle, qu'il écrasait de l'évidence indéniable de sa faute, qu'elle appelait un crime. Épouvantable vie domestique, épouvantable pour toutes deux. Mais c'était certainement l'asthénie qui devait souffrir le plus de cette abominable intimité. Il est, dans le malheur, un moment où, comme on le dit du bonheur, il n'y a plus d'histoire possible, où ce qui est inénarrable, l'imagination est obligée de le deviner. Ce moment dans le malheur était arrivé pour l'asthénie. Elle était changée au point qu'on aurait pu la reconnaître. Que ceux qui l'avaient trouvée charmante n'auraient pas pu dire que c'était là, il y avait si peu de temps, la jolie demoiselle de Ferjol. Elle faisait peur, cette suave lasthénie, ce puant muguet né dans l'ombre portée de ces montagnes et qui tranchait par la blancheur de son éclat. Ce n'était plus la pâle Rosaline de Shakespeare, avec cette pâleur qu'elle avait eue et qui est la beauté des âmes tendres. Elle n'était plus qu'une blême momie, une momie étrange, qui pleurait toujours, et dont la chair, au lieu de se sécher comme celle des momies, s'amollissait, se macérait et se pourrissait dans les larmes. Elle traînait péniblement à présent sa taille appesantie et souffrait horriblement de ce ventre qui grossissait toujours. Elle aurait voulu le cacher perpétuellement dans les plis flottants du peignoir, mais sa mère ne le permettait pas. Il fallait aller à l'église. Sa mère l'exigeait et d'autorité l'y conduisait. Avec ses idées religieuses, Madame de Ferjol devait croire que l'influence de l'Église pouvait faire du bien à l'asthénie, à cette âme coupable et fermée. Elle pouvait bien ouvrir son cœur et lui faire verser ce qu'il renfermait dans le cœur de sa mère. Vous n'êtes pas assez près de vos couches, lui disait-elle, avec une sévérité méprisante, pour ne pas aller demander un pardon à Dieu dans sa maison sainte. Et pour l'y conduire, c'était elle qui l'habillait, ce n'était plus Agathe. C'était elle qui, au moment de sortir, lui entortillait la tête dans un voile épais, dut l'asthénie étouffée là-dessous, pour cacher ce masque qu'elle avait vu et qu'elle n'eût pas mieux caché quand il aurait été une lèpre. Mais ce n'était pas seulement le visage qu'il fallait dissimuler, c'était ce ventre qui aurait tout révélé aux regards les moins observateurs. Et pour cela, elle laçait elle-même le corset de l'asthénie, elle ne craignait pas de le serrer trop fort et de lui faire mal. Dans l'espèce d'exaspération où elle vivait, par le fait du silence obstiné de sa fille, Madame de Fergeol avait quelquefois, en la lassant, une main irritée. Et si sa main crispée appuyait, et si la pauvre enceinte poussait sous cette pression un gémissement involontaire, ah, lui disait-elle avec une dureté ironique, il faut bien souffrir un peu pour se cacher quand on est coupable. Et pour peu que la malheureuse torturée se plaignît encore, avez-vous donc si peur que je vous le tue? Reprenait Madame de Fergeol avec une sauvage amertume. Soyez tranquille. Ces enfants-là, venus par le crime, vivent toujours. Chapitre 7. Cependant, au milieu de ces férocités, il y eut un instant où cette mère outrée, mais non pas sans entrailles, s'arrêta dans le supplice qu'elle infligeait à sa fille. Sentit-elle que même coupable, c'était vraiment trop? Fut-elle touchée de ce visage qui avait été délicieux et qui n'était plus qu'une fleur broyée, ou bien fût-ce une ruse de cette âme acharnée pour surprendre le secret que cette fille si faible et forte pour la première fois avait l'incroyable énergie de garder cachée dans son cœur. Elle se connaissait en amour, mais il faut qu'elle aime furieusement, pensait-elle, pour avoir cette force, elle si douce de nature et si peu faite pour résister. Et voilà que tout à coup elle changea de ton avec l'asthénie. Voilà que son âpreté s'adoucit et qu'elle revint même au tutoiement de la tendresse. Écoute, lui dit-elle, malheureuse et funeste enfant, tu meurs de chagrin et tu m'en fais mourir avec toi. Tu perds ton âme et tu perds la mienne. Car te cacher, c'est mentir. Et tu me fais partager ton mensonge avec cette humiliante comédie de tous les moments qu'il faut jouer pour cacher ta honte. tandis qu'un mot dit de cœur à cœur à ta mère pourrait peut-être tout sauver. Un mot dit par toi te mettrait peut-être dans les bras où tu t'es mise une fois. Dis-moi le nom de l'homme que tu aimes. Il n'est peut-être pas si bas que tu ne puisses l'épouser. Ah, l'asthénie, je me reproche d'avoir été si dur avec toi. N'en aie pas le droit, ma fille. Oui, je t'ai caché ma vie. Tu ne sais, ni toi ni les autres, qu'une seule chose, c'est que j'ai aimé follement ton père et qu'il m'a enlevé. Mais tu ignores, et le monde aussi, que moi, comme toi, ma pauvre fille, j'avais été coupable et faible, et qu'il m'avait mise dans l'état où tu es, quand il m'amena dans ce pays pour m'épouser. Le bonheur du mariage cacha une faiblesse dont je n'eus jamais à rougir que devant Dieu seul. Ta faute à toi, ma pauvre fille, est sans doute une punition, une expiation de la mienne. Dieu a de ces talions terribles. J'ai épousé ton père, j'épousais mon Dieu. Mais le Dieu du ciel ne veut pas qu'on lui préfère personne. Et il m'en a puni en me le prenant, et en faisant de toi une fille coupable, comme je l'avais été. Eh bien, pourquoi n'épouserais-tu pas aussi celui que tu aimes? Car tu l'aimes. Si tu ne l'aimais pas follement comme j'ai aimé ton père, tu ne te tairais pas. Elle s'arrêta. On voyait bien que cela lui coûtait immensément ce qu'elle venait de dire, mais elle l'avait dit. Elle s'était avouée l'égale de sa fille dans sa faute. Elle n'avait pas reculé devant certaines humiliations. La dernière ressource qui lui resta pour savoir la vérité qu'elle brillait de connaître. Elle s'était résignée à rougir devant son enfant, elle qui avait une si grande idée de la maternité et du respect qu'une fille doit à sa mère. Parce qu'elle lui apprenait aujourd'hui une chose que personne n'avait su, dont personne au monde ne s'était douté, et que le mariage avait si heureusement caché, elle se dégradait comme mère aux yeux de l'asthénie, et c'est pour cela qu'elle avait tant tardé à faire ce dégradant aveu. Elle ne l'avait fait qu'à la dernière extrémité, mais elle en avait bien longtemps roulé en elle-même la pensée. Quel effort n'avait-il pas fallu à son âme robuste pour se résoudre à cet aveu qu'il abaisserait dans l'âme de sa fille. Mais enfin, elle s'était dotée, et elle l'avait fait. Seulement, ce fut en vain. L'asthénie n'en fut pas touchée. Elle écouta l'aveu de sa mère, comme elle écoutait tout maintenant, sans répondre jamais, épuisée qu'elle était de courage et de négations inutiles. Aux reproches de Madame de Ferjolles, à ses impatiences, à ses objurgations, à ses colères, elle était aussi insensible qu'une bête morte. Elle fut de même à cet aveu. Était-ce un parti désespéré pris par elle? La certitude qu'elle ne pourrait convaincre sa mère de son innocence devant le signe visible de sa grossesse? Mais cette tendresse, si soudainement montrée, de Madame de Ferjolles, cette confiance qui appelait la confiance, cette confession d'une faiblesse égale à la sienne, qui devait tant coûter à l'orgueil d'une mère vis-à-vis de sa fille, ne pénétrèrent pas dans l'âme de l'asthénie, qui ne s'était jamais ouverte à sa mère, et que d'ailleurs la douleur de son incompréhensible état idiotisait. Il était trop tard. L'asthénie avait cru longtemps à tout autre chose qu'une grossesse. Elle avait connu dans la bourgade même qu'elle habitait une malheureuse qu'on avait crue grosse et qu'on avait déshonorée et traînée sur la claie des plus mauvais propos pendant les mois de sa grossesse, mais qui, les 9 mois écoulés, resta grosse, d'un horrible square dont elle n'était pas morte encore et qui certainement devait un jour la faire mourir. L'asthénie, comble de l'infortune, l'asthénie avait espéré en ce square comme on espère en Dieu. « Ce sera toute ma vengeance, » pensait-elle contre sa mère, « est-ce qu'elle me dit de cruel ?» Cette affreuse espérance, elle ne l'avait plus. Elle ne doutait plus. L'enfant avait remué, et ce remuement dans ses entrailles lui avait remué du même coup quelque chose dans le cœur qui était peut-être l'amour maternel. Eh bien, pardonneras-tu maintenant, l'asthénie? Rendras-tu à ta mère confiance pour confiance, aveu pour aveu? Fit Madame de Ferjolles, presque caressante. Tu ne dois plus avoir peur à présent d'une mère qui fut un jour aussi faible et aussi coupable que toi, et qui peut te sauver, ajouta-t-elle en te donnant celui que tu aimes. Mais l'asthénie ne semblait pas entendre, même physiquement, la voix qui parlait. Elle était sourde. Elle était muette. Sa mère la regardait, aspirant la réponse qui ne sortait pas de ses lèvres blêmes. « Voyons, ma fillette, noble-moi » lui dit-elle en prenant une de ses mains inertes, croyant l'entraîner doucement par cette main sur sa poitrine. Mouvement maternel qui, lui aussi, arrivait trop tard. Elles étaient alors dans la haute salle qu'elle ne quittait jamais, et où les montagnes, qui faisaient une ceinture à leur triste maison, envoyèrent leurs ombres et en redoublaient la tristesse. Elles se tenaient dans leur embrasure. Ah ! Sait-on bien le nombre des tragédies muettes entre filles et mères qui se jouent dans ces embrasures de fenêtres où elles semblent si tranquillement travailler. L'asthénie était assise, droite, rigide et pâle comme un médaillon de plâtre ressortant sur le brin du chêne qui revêtait les murs. Madame de Ferjolles penchait son front sombre sur son ouvrage. Mais l'asthénie, accablée, comme si le ciel se fût écroulé sur elle, laissait tomber et couler de ses mains découragées son feston à terre dans l'immobilité d'une statue, la statue de la désolation infinie. Ses yeux si nacrés, si frais, si purs, étaient littéralement tués de larmes. Ils avaient autour des paupières cet ourlet d'un rougeâtre qui avait laissé et qui ravivait l'incessante brûlure des pleurs. Et ses yeux, qui commençaient de s'érailler, comme s'ils avaient pleuré du sang, n'exprimaient plus rien, pas même le désespoir. Car l'asthénie était en train de tomber plus bas que dans l'absorption fixe du fou. Elle allait tomber dans le vide fixe de l'idiot. Sa mère la contempla longtemps avec la pitié mêlée de terreur que lui causait le désastre de ce visage. Elle n'avait jamais dit à sa fille qu'elle la trouvait belle, mais au plus profond de son âme, elle n'avait pas moins la fierté du visage de l'asthénie, quoiqu'elle n'en parlât jamais. La janséniste austère, de peur d'exalter deux orgueils, celui de sa fille et le sien. Aujourd'hui, ce visage ravagé d'un navrait de le voir. Ah, pensait-elle, cette fille charmante sera peut-être affreuse et tout à fait imbécile demain. Elle voyait déjà poindre le hideux idiotisme à travers cette fille, morte avant d'être morte, car on croit que les corps de la plupart de ceux qui meurent s'en vont de ce monde les premiers et avant leurs âmes. Mais pour d'autres, les corps restent là, dans la vie, quand les âmes depuis bien longtemps n'y sont plus. Et le soir, les prit dans ce face-à-face de 4 pieds carrés dans lequel se parquait leur vie. Le soir, qui venait vite dans le fond du puits de cette bourgade obscure et qui ramenait l'heure de leur prière du tomber du jour à l'église. « Viens prier Dieu pour qu'il te dessèle le cœur et les lèvres et te donne la force de parler, » dit Madame de Ferjolles. Mais, indifférente à Dieu, qui n'avait pas pitié d'elle, comme elle était indifférente à tout, l'asthénie resta à sa place. Et Madame de Ferjolles fut obligée de saisir par le poignet cette créature qui n'était plus qu'une chose douloureuse et qui, automatiquement, céda à sa mère et se leva. Tiens, dit madame de Ferjol, en soulevant la main de sa fille à la hauteur de ses yeux, tu n'as plus la bague de ton père. Qu'en as-tu fait? L'as-tu perdue? Ne te sens-tu plus digne de la porter? L'abîmement dans leur malheur domestique avait été si grand pour ces deux femmes que ni l'une ni l'autre ne s'était aperçue que la bague manquait à la main qui avait l'habitude de la porter. L'asthénie, qui ne comprenait plus rien à rien, regarda sa main dont elle écarta les doigts avec un mouvement insensé. Mais est-ce que je l'ai perdue? Fit-elle, comme si elle fût sortie d'un évanouissement. Oui, tu l'as perdue, comme tu t'es perdue, dit madame de Ferjol avec un regard qui redevint noir et implacable. Mais tu l'as donné à qui tu t'es donné. Et elle reprit toute sa dureté. Elle était tellement épouse, cette femme, plus épouse que mère, que cette perte d'une bague de l'homme adoré qui l'avait portée et que sa fille avait égarée lui paraissait chose pire que de s'être perdue elle-même. Ce soir-là et les jours suivants, Agathe chercha partout dans la vaste maison la bague qui pouvait très bien être tombée du doigt amaigri de l'asthénie. Elle ne la trouva pas. Et ce fut une raison de plus pour que jamais une minute de compassion ne revint au cœur de madame de Ferjol, et pour que ses ressentiments devinssent d'une cruauté qui ne faiblit plus. Ce soir-là, elles oublièrent d'aller à l'église. Si elles y étaient allées, madame de Ferjol y aurait porté la pensée qui l'avait hantée si souvent par intervalle, mais qui finalement s'empara d'elle comme une griffe après ce mutisme invincible de l'asthénie. « Mais puisqu'elle ne veut pas me dire le nom du coupable, se dit-elle, c'est donc qu'il ne peut pas l'épouser. » Et alors la pensée lui revenait de cet effrayant capucin qui lui facilitait la pensée et dont elle n'aurait pas osé prononcer le nom devant sa fille, ni dans sa conscience à elle-même quand elle y pensait. Ce nom seul, les lettres de ce nom seul à prononcer, lui faisaient peur. Assembler les lettres de ce nom et le prononcer tout bas lui paraissait un monstrueux sacrilège. C'en était un pour elle que de mal penser d'un religieux et d'un prêtre, qui tout le temps qu'il avait vécu auprès d'elle lui avait paru irrépréhensible. Ce qu'elle frémissait de penser, mais cependant ce qu'elle pensait, était bien possible, sans doute humainement possible. Mais elle, la pieuse femme, qui croyait à la vertu surnaturelle des sacrements, repoussait le possible, qu'elle regardait comme l'impossible pour un prêtre nourri chaque jour de la substance de Dieu. « Ah, Seigneur !» s'écriait-elle dans ses prières, « faites, Seigneur, que ce ne soit pas lui !» Elle ne l'appelait plus que lui, même mentalement. D'ailleurs, à quel moment, se disait-elle quand elle voulait raisonner contre son épouvante, le crime aurait-il été consommé, ce crime encore plus contre Dieu que contre sa fille? Lui n'avait jamais vu l'une sans l'autre de ces deux femmes qu'il avait hébergées 40 jours. Excepté à l'heure des repas, il n'était jamais descendu de sa chambre, dont il avait fait d'une cellule. C'était donc absurde, c'était donc insensé, ce qu'elle pensait. Mais ce qu'elle pensait, ce qu'elle chassait, comme une pensée de l'enfer, revenait en elle avec un acharnement infernal, malgré son évidente absurdité. Obsession, hallucination, vision terrifiante qu'elle fixait des yeux infatigables de son esprit, comme ce fou dont la folie était de regarder fixement le soleil et de se faire manger les yeux par l'astre dévorant de lumière. Mais plus malheureuse que ce fou bientôt aveuglé, qui n'eut plus que 2 trous saignants à la place de ses yeux dévorés, elle ne devint pas intellectuellement aveugle à regarder l'horrible soleil intérieur qui la brûlait et qu'elle fixait et qu'elle voyait toujours. Cela finissait par la plonger dans des silences comme ceux de l'asthénie. Et si elle se détournait une minute de cette fascination absorbante, dont elle demandait vainement à Dieu de la délivrer, c'est qu'une autre pensée, non moins puissante, non moins impérieuse, se dressait en elle, la pensée du temps qui marchait. Il marchait, en effet, comme le temps va, impitoyable, et il allait tout apprendre de la honte des dames de Ferjol à cette bourgade où elles avaient vécu 18 ans, respectées. Le terme de l'asthénie approchait. Ah, il fallait partir, il fallait s'en aller, il fallait disparaître. Madame de Ferjol, qui ne voyait personne, fit répondre un matin par Agathe au marché du bourg qu'elle retournait dans son pays. C'était la seule chose qui pouvait amoindrir le chagrin d'Agathe, affligée de l'état inexplicable et peut-être sans remède de l'asthénie, qu'elle croyait toujours la proie d'un démon, que de quitter ce pays qu'elle avait en horreur, ce cul de basse fosse où depuis 19 ans elle étouffait. Elle allait donc revoir son Cotentin et ses héribages. Pour s'en aller, Madame de Ferjol avait prétexté la santé de sa fille. Il était nécessaire de lui faire changer d'air. Elle avait naturellement choisi l'air du pays qui était le sien, où elle avait une grande fortune. Elle donna à Agathe toutes les raisons bêtes qui cachaient la vraie spirituelle raison de son départ, et que, ravie de son retour en Normandie, Agathe ne l'hésita pas, ne discuta pas, mais accepta avec une indicible joie. Elle était folle de revenir au pays où elle était née. Or, tout autant avec Agathe qu'avec personne, Madame de Ferjol voulait garder le secret de sa fille, qui était le sien, puisqu'au regard de sa conscience, la grossesse de l'asthénie la déshonorait presque autant qu'elle. Pour cela, Madame de Ferjol avait tourné et retourné, sous toutes les faces, la pensée de ce qu'elle pouvait faire dans la circonstance d'une grossesse pour la cacher sans crime. Car le crime, ce crime de l'avortement et de l'infanticide, qui est devenu d'une si abominable fréquence dans l'état actuel de nos misérables mœurs, et qu'on pourrait appeler le crime du XIXe siècle, l'idée n'en effleura même pas cette âme droite, religieuse et forte. Excepté à celui-là, Madame de Ferjol s'était heurtée et déchirée à tous les angles de la question terrible. Elle avait fait et défait bien des projets. Elle aurait pu s'en aller avec sa fille, par exemple, dans cet immense Paris où tout se noie et disparaît, ou dans quelque ville à l'étranger, et en revenir, sa fille délivrée. Elle était riche. Avec de l'argent, beaucoup d'argent, on parvient à sauver tout, jusqu'aux apparences. Mais aux yeux d'Agathe, comment justifier de s'en aller avec sa fille malade, on ne sait tout, et de la laisser à la maison la vieille et fidèle servante, à laquelle, dans la plus grande et la plus périlleuse circonstance de sa vie, Madame de Ferjol, lors de son enlèvement, avait promis par reconnaissance de ne jamais se séparer d'elle, quoi qu'il pût advenir. Elle le lui avait juré. D'ailleurs, ce parti, si elle l'avait pris, aurait certainement donné à Agathe le soupçon dont elle ne voulait pas que sa fille fût flétrie, dans la pensée de qui la croyait un ange d'innocence pour avoir été le témoin de la pureté de toute sa vie. C'est alors que l'idée de son pays lui était venue, qu'elle s'y était arrêtée. Elle pensa qu'après 20 ans d'absence, elle devait y être bien profondément oubliée, et que tout cela qu'il avait connu dans sa jeunesse devait être mort ou dispersé. Et elle se dit, « Nous irons nous engloutir là. Agathe, ivre de son pays retrouvé, ne verra rien de ce qui doit mourir entre moi et l'asthénie. Nous mettrons l'épaisseur de la sensation de son pays entre elle et nous. » Dans ses projets, la solitude que Madame de Ferjol devait se créer serait d'un tout autre isolement que celle dont elle avait vécu au bourg des Cévennes. Elle n'habiterait dans Normandie ni ville, ni bourgade, ni village, mais son vieux château d'Hollande, situé dans ce coin de pays perdu qui est entre la côte de la Manche et une des extrémités de la presqu'île du Cotentin. Il n'y avait pas alors de grande route tracée allant de ce côté. Le château était gardé par de mauvais chemins de traverse aux ornières profondes, et aussi une partie de l'année par ces vents du sud-ouest qui soufflent la pluie, comme s'il avait été bâti en ces chemins perdus par quelque misanthrope ou quelque avare qui aurait voulu qu'on n'y vînt jamais. C'est là qu'elles s'enfonceraient toutes deux comme des taupes sous terre, ces deux hontes. La résolue Madame de Ferjol s'était bien promis que même au dernier jour, au jour fatal, elle n'appellerait pas de médecin, et qu'elle suffirait bien, elle toute seule, à cette besogne sacrée d'accoucher sa fille de ses mains maternelles. Mais c'est ici que le frisson la prenait, cette héroïque et malheureuse femme, et qu'une voix lui criait du fond de son être. Eh bien, après qu'elle sera délivrée, il y aura l'enfant. Ce ne sera plus la mère, mais l'enfant qu'il faudra cacher. L'enfant dont la vie pourrait tout trahir et rendre les précautions prises jusque-là inutiles. Et alors, elle recommençait de se débattre dans le problème qu'elle voulait résoudre et qui l'étranglait comme un nœud. Mais il n'y avait plus à délibérer. Le temps s'en venait jour par jour, comme la mer s'en vient flot par flot. On ne pouvait plus attendre. Le plus pressé, c'était de partir, c'était de s'arracher à cette bourgade qui les dévisageait. Madame de Fergol fit comme tous les désespérés, sous l'empire d'une idée qui ne les sauvera pas, mais qui recule la catastrophe inévitable dans laquelle ils doivent périr. Elle se paya de ce mot qu'on dit sans y croire. Oh, on trouvera peut-être un moyen de salut au dernier moment. Et elle se jeta, elle et sa fille, comme dans un gouffre, dans la chaise de poste qui les emporta.